Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec le duo Duo que nous partons ce soir. Un groupe insolite, un univers atypique, c'est le groupe Duo, formé par deux musiciens musiciennes, Nadia et Baptiste. Une musique au carrefour de multiples influences teintées de sonorités surprenantes atypiques. Un caractère indescriptible qui nous fascine, nous perd dans une boucle hypnotique enivrante. Nadia, bonsoir.
Bonsoir.
Baptiste, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
Merci.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on vous retrouve avec le groupe Duo, un duo atypique où s'entremêlent tradition et modernité, une exploration du son, de la terre au ciel qui nous envoûte, nous intrigue. Mais c'est avant tout une histoire à vivre, le temps d'un instant, une rencontre, une passion commune à partager, transmettre les musiques, ces musiques venues d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré, conduit vers cet univers?
On a deux parcours un peu différents, on va dire. Moi, c'est Didgeridoo qui m'a attiré une période de ma vie où ça s'est fait vraiment par hasard. Lors de mon premier petit boulot, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans une boutique à Paris qui vendait que des produits australiens, dont des didgeridoo. Et donc, à force de croiser des joueurs qui venaient tester les instruments, ça m'a un peu intriguée. Et j'ai plongé dedans à partir du moment où j'ai réussi à sortir un son. Et le didgeridoo ne m'a plus quittée. Donc voilà, mon parcours s'est fait un petit peu comme ça. Au début du didgeridoo sur Paris, à connaître quelques joueurs, à progresser comme ça avec eux petit à petit, et voir l'ampleur que ça a pris au fur et à mesure des années. Et Baptiste, lui, c'est d'une manière différente qu'il a rencontré le didgeridoo.
Ouais, moi, c'est je baigne depuis tout petit dans le monde des musiques traditionnelles parce que mes parents sont musiciens et font partie de cette scène-là. Ils étaient au moment un peu du revival folk. Donc, je baigne déjà dans ces musiques-là traditionnelles et puis un peu du monde par extension. Et le didgeridoo, ils m'en ont offert un pour mon anniversaire. J'avais 21 ans, sans forcément que j'en ai demandé. Et ça m'a amené à explorer cet instrument et par extension aussi à aller sur toutes les musiques du monde et toutes les sonorités un peu plus, on va dire, ethniques.
Alors, vous disiez, Nadia, tout à l'heure que c'était difficile de sortir un son.
En fait, c'est tellement atypique que... on ne se doute pas que ça se joue comme ça. C'est vrai que quand on le voit, c'est un tube qui est creux. Et c'est pas une flûte, il y a pas de hanche, il y a pas de bec, il y a rien. Et du coup, on se pose la question, mais ça se joue comment? Et en fait, c'est tellement simple en soi. C'est juste une vibration des lèvres qui résonne à l'intérieur de ce tube. Mais la vibration, faut la sortir au début. C'est tellement peu commun que on n'a pas l'habitude de faire ça. En tout cas, on l'a perdu parce que quand on est gamin, on a l'habitude de faire ce genre de son avec ses lèvres. Quand on joue, quand on a son imaginaire, et là, en tant qu'adulte, faut retrouver un peu ces petites vibrations qu'on avait l'habitude de faire enfant. Mais après, la vibration, on la module. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet instrument, justement, c'est que c'est vraiment un travail interne. Et ça fait vraiment ressortir ce que l'on est à l'intérieur. Donc, on travaille aussi bien le diaphragme, on utilise la langue, la voix, beaucoup de choses qui sont de l'intérieur par rapport à d'autres instruments où on utilise les mains ou simplement le souffle. Là, c'était vraiment quelque chose qui reflétait la personne et ce qu'on donne en fait à travers cet instrument. Donc c'est voilà, c'est celui-là qui m'a vraiment happée. Mais petite, moi j'ai pas le même passif que Baptiste où j'ai pas fait de cours de musique, de solfège, etc. J'avais des parents qui étaient pas dans ce milieu non plus. J'avais un tout petit piano, les petits pianos d'enfants là qui font un tout petit peu de musique. Et j'étais vraiment dans la création, dans faire des petits morceaux. Et mes parents m'ont offert un petit synthétiseur plus tard. Mais j'ai appris de manière autodidacte en fait. Je composais mes propres petites musiques sans prendre de cours. Et j'ai jamais appris solfège en fait. j'ai plutôt fait de la musique de manière intuitive.
D'accord. Alors vous, Baptiste, c'est un parcours à l'opposé, je suppose, avec des cours conservatoire peut-être ou des cours voilà avec des professeurs.
Exactement. C'est comme mes parents ont appris la musique de manière orale et autodidacte. Ils voulaient que nous on apprenne la musique enfant, ce que eux n'ont pas pu faire. Donc ils nous ont inscrits au conservatoire et on a fait avec mon frère le parcours classique, c'est-à-dire dès 7 ans apprentissage du solfège et d'un instrument de musique, ce qui est le plus conventionnel. Pour moi c'était le trombone.
D'accord.
Donc qui s'est avéré être pas si loin du didgeridoo finalement, mais voilà tout le parcours très classique avec tout ce qui va avec le solfège, etc., la formation musicale. Mais ce qui n'a pas empêché après, par contre, que j'ai découvert la musique plus orale, musique traditionnelle, je suis revenu un peu à ça, revenu à une musique plus intuitive et une musique sans partition, sans écrit, et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et c'est vers là que je me suis vraiment dirigé par la suite.
Et est-ce qu'il y a des voyages ou des rencontres qui vous ont marqué pour votre parcours dans les musiques du monde ?
Pas spécialement. Après, c'est des découvertes. Enfin, moi, j'ai un petit peu voyagé. Je suis pas allée en Australie. Je suis pas encore allée en Australie. En même temps, c'est une question que je me pose parce que pour ceux qui connaissent un peu l'instrument du didgeridoo, il y a toute une histoire en fait autour de cet instrument qui est un instrument sacré et qui est plutôt interdit aux femmes. Donc, il y a aussi cette crainte d'aller en Australie parce que moi, si j'y vais, c'est aussi pour connaître un peu plus cet instrument. Et donc le retour peut-être du peuple aborigène par rapport à une femme qui joue en Occident, c'est peut-être pas terrible. Donc il y a un peu cette crainte, mais pendant toute une période aussi j'ai voyagé que ce soit en Espagne, au Brésil, à la Réunion, où j'ai pu aussi découvrir des styles musicaux différents, des instruments différents, des joueurs aussi, enfin voilà, des musiciens. Et c'est un petit peu tout ça aussi qui a enrichi un petit peu mon panel au niveau musical, mais pas forcément didgeridoo, parce qu'on a pas mal de joueurs déjà en France, en Europe, qui jouent très très bien, qui ont des styles différents, dont je m'inspire aussi. Et mais voilà, pas il n'y a pas une rencontre en particulier qui a fait que il s'est passé quelque chose en moi, quoi. Donc c'est un peu toutes ces rencontres au cours d'une période de ma vie quand j'étais plus jeune. Donc voilà.
Et Baptiste ?
Pour moi c'était plutôt des fois des concerts de musique du monde qui, je me souviens, m'ont quand même assez marqué. Là où on habite à Romans, il y a un festival de folklore et donc ils font venir des artistes du monde entier. Et je me souviens souvent avoir été assez marqué par notamment des groupes à tambour, avec donc quelque chose d'assez tribal. Et c'est toujours quelque chose qui m'a ému et qui m'a procuré des sensations assez intenses. Et aussi donc des groupes avec des instruments qu'on ne voit pas souvent et qui procurent autre chose. Des instruments souvent avec un son assez rugueux, avec un son assez, comment on pourrait dire, pas sale, mais très harmonique, en fait, très riche au niveau harmonique, qui n'est pas vraiment dans la recherche de pureté qu'on peut retrouver des fois dans la musique classique. Il y a quelque chose de plus rugueux. Et ça, c'est souvent des instruments qui m'ont touché et qui m'ont donné envie d'en jouer pour aussi transmettre cette émotion qu'on a avec ce type de musique et ce type d'instrument.
Quel type d'émotion vous avez? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Parce que vous parlez aussi d'ancrage, de la terre.
Ouais, alors les tambours et le didgeridoo, il y a quelque chose de grave en fait. Donc quelque chose qui fait vibrer un peu le corps, quelque chose qu'on ressent physiquement. Ce n'est pas vraiment une question d'harmonie ou autre chose, c'est quelque chose de très physique. C'est-à-dire que les vibrations, quand elles sont basses, à basse fréquence, il se passe quelque chose, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la poitrine, ça peut être dans la tête. Il se passe quelque chose de physique.
Je repense à certaines expériences, hein, que ce soit. Voilà, on avait l'habitude aussi de jouer pour aussi bien des publics enfants, dans des écoles, dans des maternelles. En effet, hein, il y a cette vibration qui s'échappe de cet instrument. Ça procure quelque chose de différent à chaque personne. Il y en a qui ça fait vraiment du bien, qui viennent nous le dire après. Ah, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait vibrer, il s'est passé quelque chose. Et d'autres chez qui, c'est très difficile à supporter. C'est même désagréable. Donc en fait, oui, ça fait ressortir quelque chose chez chaque personne. C'est un instrument pour moi qui ancre, hein, qui ancre vraiment à la terre, qui émet quelque chose. Donc c'est pour ça rejoint en effet aussi tout ce qui est tambour, qui ont une vibration assez forte et qu'on ressent vraiment au niveau du ventre, du plexus. C'est quelque chose qui est assez fort. Ouais.
Avec nous et pour vous sur Radio G avec le groupe Duo. Est-ce que vous savez à quelle fréquence il vibre? Parce qu'on n'est pas dans le 440 Hz, je suppose.
Ça dépend de la note du didgeridoo. Mais c'est vrai que sur un didgeridoo, par exemple, qu'on joue le plus souvent, c'est-à-dire en ré, on est à peu près vers 75 Hz, donc assez bas, la fréquence de base. Mais après, il y a toutes les fréquences qui vont s'additionner, qui seront au-dessus, toutes les harmoniques. Mais c'est vrai que là, on est du coup en dessous du 100 Hz. On est souvent autour, entre 60 et 80 Hz. À peu près, on se situe dans cette plage de fréquence-là, donc qui sont assez basses.
Est-ce que vous pouvez faire plusieurs notes avec l'instrument?
Et non.
D'accord, ok. C'est la particularité de ce
Voilà. Un instrument, une note.
D'accord, donc faut souffler dans plusieurs instruments en même temps ou jouer à plusieurs peut-être.
Moi j'ai plusieurs instruments, j'ai plusieurs didgeridoo. Maintenant il existe aussi des didgeridoo à coulisses, donc on peut changer la note de l'instrument avec le même instrument, mais pas pendant qu'on joue. Enfin, en tout cas, pas tous les didgeridoo se permettent de faire ça. Mais maintenant il existe plein de fabricants qui ont réfléchi à cette problématique entre guillemets, mais en tout cas qui permettent de changer de note avec le même instrument. Donc soit à coulisses, soit à différentes parties qu'on va monter sur le didgeridoo. Donc et puis maintenant on voit même des didgeridoo saxophones, donc avec des touches, des notes différentes. Donc il y a plein de champs d'exploration en fait avec cet instrument, et c'est assez drôle justement de voir l'évolution.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut aussi un peu dénaturer par rapport à son essence même. Et si on parlait un peu de son origine, de son histoire. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui. le didgeridoo est un instrument très très vieux. Ils ont du mal à dater justement période préhistoire, etc. Donc c'est assez complexe, mais C'est un instrument très ancien qui est utilisé à la base par les aborigènes d'Australie.
Entre 10 000 et 40 000 ans, je crois, avant Jésus-Christ.
Et qui était utilisé à la base lors des cérémonies sacrées, les cérémonies qui pour rappeler les moments du temps du rêve, ce qu'ils appellent le dream time. Et donc ça, c'est un instrument qui accompagnait les chants et les danses, qui racontait tous les récits du dream time. Donc le dream time, c'est assez complexe à expliquer, mais en gros, dans cette situation, c'est plutôt pour raconter les récits de la création du monde, entre autres. Et donc l'instrument était utilisé principalement par les hommes, dans la plupart des tribus. Donc c'est pour ça qu'à un moment il y a ce côté attention, les femmes n'ont pas le droit d'y jouer, c'est un sacrilège. Donc voilà en fait l'origine un peu de cet instrument qui date de millénaires et qui est utilisé dans un cadre de récit, voilà, d'histoire ancestrale. Et donc nous on prétend pas du tout jouer la manière des aborigènes, donc ça on le précise à chaque fois parce qu'on veut pas qu'il y ait d'incompréhension ou d'amalgame, etc. On est plutôt dans l'utilisation de cet instrument à notre manière, de manière contemporaine, moderne, et en aucun cas on se prétend jouer de la même façon que les aborigènes, à faire la même chose qu'eux. On n'est pas du tout légitime par rapport à ça et c'est pas notre culture non plus. Donc moi je suis tombée amoureuse de cet instrument, mais voilà, je l'utilise à ma façon.
D'accord. On invite d'ailleurs les gens qui veulent découvrir cet instrument, s'ils écoutent nous ce qu'on fait dans notre musique, ou alors je dirais nous contemporains qu'on peut voir sur YouTube avec des joueurs occidentaux, à écouter ce type de jeu et après à aller écouter le type de jeu traditionnel aborigène, qui a pas mal de vidéos aussi de collectage qui a été fait, la différence est quand même assez flagrante. Les gens risquent d'être surpris en disant « Ah, c'était super, didgeridoo, je vais écouter la musique traditionnelle. Ah,
c'est pas la même chose.
C'est moins facile d'accès.
» Comment vous réussissez à allier en fait cette tradition avec cette modernité ?
Après, nous, didgeridoo, on s'en sert essentiellement de bourdon. C'est-à-dire que ce qui nous parle aussi, c'est ce côté justement une note qui est tenue et sur laquelle va s'ajouter d'autres instruments. Donc on rejoint un peu pas beaucoup de musiques ethniques et de musiques du monde qui ont ce fonctionnement avec un bourdon, comme pour rester un peu chez nous, comme la vielle à roue, la cornemuse, mais pour après étendre à d'autres instruments du monde. Qui vont jouer avec des bourdons, comme la musique indienne, comme des musiques chinoises, des musiques amérindiennes aussi. Voilà, c'est ce côté un peu une note tenue sur laquelle s'ajoutent d'autres instruments.
Donc une base, c'est un peu de lier ça comme une base.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que c'est vrai que dans l'album, hein, il y a pas un moment de solo didgeridoo. Il y a des courts moments, en effet, on n'entend que le didgeridoo, mais en effet, c'est plus accompagner, faire partie d'un ensemble, et non pas se dénoter pour raconter quelque chose. Les seuls moments, en effet, où je prends du temps avec que le didgeridoo sur l'album, c'est aussi pour transmettre mes intentions aussi que j'ai à l'intérieur de moi. Comme je disais, hein, cet instrument, pour moi, c'est aussi un prolongement de la personne qui le joue. Donc, les sons qu'on va produire, ils viennent de notre intérieur, de notre corps. Et du coup, c'est plus par rapport à la tradition, vous parlez de la tradition, quelle continuité. Moi, c'est plus dans le sens là où exprimer ce qu'on a à l'intérieur à travers cet instrument. Donc, avec les intentions qu'on a à l'intérieur de nous.
Les intentions émotionnelles ou...
Oui, par exemple, ou est-ce qu'on a envie de partager avec les personnes qu'on a en face de nous. Donc, de l'amour, ça peut être de la joie. À un moment, si je suis dans un moment de tristesse ou que notre morceau raconte quelque chose de triste, donc ça va être peut-être de la tristesse également. Donc, du dynamisme, de l'énergie. Il y a plein de choses qu'on a envie de transmettre aussi par le biais du didgeridoo.
Et est-ce qu'en tant qu'artiste, avec votre musique, vos compositions, vous avez un message en particulier à transmettre ou ça reste des intentions?
C'est pour de la musique instrumentale, justement, c'est pas évident de faire passer un message explicite. On va dire qu'il est plutôt implicite et que on est plutôt, enfin, tu me dis Nadia si je me trompe, mais sur le transmettre justement des émotions et transmettre de l'énergie. Donc sur quelque chose qui va plus être du ressenti et pareil du corporel plutôt que sur un message à proprement parler, qui souvent quand on parle de message on a tendance à penser un peu soit politique ou soit autre chose. Là ça sera plus quelque chose du ressenti.
Et puis alors moi je complète parce que je suis d'accord avec ce que dit Baptiste, hein, mais je rajouterais aussi que on a fait le choix aussi de faire cette musique de manière, enfin avec des instruments de musique du monde entier, sans incorporer d'électronique ou en tout cas un accompagnement plus moderne. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi du message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'on fait de la musique qui se mélange. Donc on mélange vraiment les cultures, les instruments qui viennent de différents pays, donc il y a le côté mélange déjà, où voilà, de nos jours c'est important de s'accepter, d'accepter les autres, que au final bah ce mélange c'est enrichissant. Il y a le côté aussi on va voir aussi par rapport au nom de l'album qu'on a choisi, hein, le deuxième album s'appelle Résilience. Donc c'est aussi un message qu'on voulait faire passer à travers cet album et la musique qu'on produit aussi. Donc le côté résilience, on l'entend de différentes manières, mais pour nous c'était important de faire entendre ce message aussi que on a rajouté la petite phrase dans l'album qui est il faut apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Donc pour nous ça veut dire plein de choses. Donc voilà, c'est notre musique, on fait passer différents messages et chacun y trouve le message qu'il a envie d'entendre en fait.
Eh bien, on va écouter un extrait de Temerza. Alors, qu'est-ce que cette musique évoque?
Alors, c'est marrant parce que Temerza, c'est un hommage un peu par rapport à ma famille. En fait, je suis métisse française tunisienne. Donc, j'ai une maman qui vient de la région vosgienne et mon papa qui est tunisien. Et en fait, Temerza, c'était un hommage en fait à mes grands-parents de Tunisie que j'ai jamais connus, qui ont vécu à Temerza. Et aussi un hommage à mon papa. Et donc, je voulais faire un morceau vraiment qui reflète un petit peu le côté maghreb, la darbouka, des sonorités orientales avec le bouzouki. Et voilà comment en fait est né le morceau. C'est moi qui demandais un peu à Baptiste de... Voilà, que j'avais envie de faire un morceau avec ces sonorités.
D'accord.
Donc, pour moi, voilà, ça évoque vraiment... cet hommage à ma famille, le désert tunisien, le vent qui souffle dans les dunes, voilà.
Et l'album, alors on va revenir un peu sur le titre, Résilience, vous parliez tout à l'heure, de ce que ça pouvait évoquer. Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça t'évoque, Baptiste?
Oui, c'est voilà, c'est ce côté, se remettre de tous les chocs, tout ce que peut... endurer un être humain, une société, des êtres vivants, le monde végétal, le monde animal, voilà. Comment comment se relever de chaque choc enduré. Et ça va aussi des fois avec avec la musique, c'est-à-dire que je dirais pas que la musique est un choc, mais il se passe quelque chose, c'est-à-dire que c'est difficile d'être indifférent à une musique. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il peut se passer beaucoup de choses corporellement, émotionnellement. Et ce qui fait aussi, je trouve, un peu l'atout du didgeridoo, c'est que cette note unique qui ne s'arrête pas, met autant les gens qui en jouent que les gens qui écoutent, dans un petit état modifié de conscience, c'est-à-dire que on voyage déjà par les sonorités, et comme ça ne s'arrête pas et qu'il y a quelque chose d'assez récurrent qui reste, on est dans un autre petit état qui pourrait être un petit état de choc, quelque chose de différent. Et quand la musique s'arrête, on revient à un état plus ou moins normal avec ce que ça a procuré avant. Mais en tout cas, on revient à dans un état qui est un peu différent de là où on était avant le morceau de musique, avant les sonorités. Il y a ce petit côté aussi un peu résilience, de retour à la pseudo-normalité.
Alors, comme vous savez, l'émission s'appelle Résonance. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ah plein de choses. Enfin, du coup, ça, moi, je trouve que ça colle bien avec avec un peu le didgeridoo aussi. Hein. C'est cette vibration qui résonne à travers ce tube. Et puis, résonner, c'est... Alors, c'est marrant parce que résonner, ça a deux termes, deux orthographes. Donc, ça résonne, le raisonnement au niveau de la personne, mais aussi la résonance, donc donner de l'ampleur, quelque chose qui se propage. Et du coup... moi, ce que ça évoque, c'est j'essaye de faire résonner ce que j'ai envie de transmettre aussi en bienveillance. Donc voilà, que ça aille le plus loin possible, que ça résonne le plus loin possible.
Voilà, résonance, c'est vraiment le côté en effet très sonore. Et tous les instruments ont un principe de résonance. Et là, quelque part, la vie est résonance. Enfin, tout ce qui nous entoure est résonance. Si on enlève la résonance, ça devient invivable. Donc, c'est quelque chose d'assez vital. Et dans résonance, il y a aussi la transmission. C'est-à-dire que, on va résonner avec d'autres êtres vivants. C'est-à-dire qu'une vibration va entrer en résonance avec d'autres matériaux, qu'ils soient, même inertes, parfois, ou vivants. Et donc ce côté résonance, quand on joue, quand on fait de la musique, on sent que on sent cette résonance dans les gens qui sont en face de nous. Il se passe quelque chose. On sent quand ça monte, quand l'énergie redescend, quand l'énergie est là. Donc c'est vrai que c'est important pour nous aussi, ouais, ce terme-là. Et du coup, ça colle plutôt bien.
Eh bien, merci Baptiste, merci Nadia d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve sur les réseaux et on vous écoute sur toutes les plateformes.
Et en live, prochaine date, donc plutôt par chez nous, en Rhône-Alpes, on jouera le 14 mars à Tournon, au bar associatif Le Point Commun, et le 12 avril dans les Hautes-Alpes, à La Grave, pour un festival de télémarque qui s'appelle le Medjo Festival, donc une pratique de ski télémarque.
Super, et bien à bientôt.
Merci, à bientôt.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.